Chapitre 13. Sacrifice. C'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. Jean Anouilh. On n'applaudit pas le serviteur dans la maison du maître. Pie X. Le premier bruit anormal qu'entendirent les habitants de Callisté dans la torpeur de l'après-midi d'été fut celui de l'envol simultané de dizaines de milliers d'oiseaux partout sur l'île. Nombreux furent les Atlantes qui les regardèrent s'élever dans le ciel, en un nuage assourdissant, avant de s'éparpiller dans toutes les directions vers le large. Un comportement aussi inhabituel qu'inquiétant. Un silence pesant suivit leur départ. Même les cigales avaient cessé de striduler. Une heure plus tard, la terre commença à trembler violemment. Du cratère central jaillit une colonne de fumée noire. Elle obscurcit rapidement le ciel, faisant tomber la nuit en plein jour. Un grondement permanent s'installa, et les secousses telluriques se multiplièrent. Les prêtres d'Akrotiri consultèrent les Pitis. Elles dirent de sacrifier du bétail et d'invoquer les dieux primordiaux pour implorer leur clémence. Sinon, ce serait la fin de Callisté. Au bout de 3 jours de rituels incessants, Gaïa envoya pour toute réponse une nuée ardente qui dévasta tout ce qui vivait dans les terres fertiles du milieu de l'île. Hommes, bêtes, plantes. Sollicités à nouveau, les Pitis évoquèrent alors un mage au pouvoir redoutable, venu d'Orient plusieurs années plus tôt sur l'île de Kriti, à Knossos. Il officiait au culte noir d'Ophitea. Il se nommait Erebus, le Ténébreux. Il était originaire d'Ardalsawad, la terre obscure, située dans le pays que les Grecs appelaient Mésopotamie, la contrée entre deux fleuves. Il appartenait à un ordre mystique, aussi ancien qu'effrayant, apparu à Uruk bien avant que cette ville ne voie la naissance de l'écriture. On le disait lointain descendant de Lilithu, l'esprit du vent. On lui prêtait des pouvoirs surnaturels qu'il aurait appris de démons parmi les plus redoutables. On le craignait. Une délégation de notables partit en toute hâte le rencontrer à Knossos pour le supplier de les aider à calmer Gaïa. Erebus accepta à la condition d'avoir tout pouvoir de vie ou de mort sur qui il déciderait, afin de réaliser le cérémonial qui jugulerait le péril. La colonne de fumée qui s'élevait de Callisté était visible depuis Kriti, au-delà de l'horizon. Les émissaires atlantes acceptèrent. En débarquant le lendemain sur l'île, déjà couverte de scories, Erebus eut un bref sourire. Lui qui venait d'une terre noire au milieu des fleuves, voilà qu'il était désormais sur une terre noire au milieu des mers. Il fit connaître aux Atlantes le terrible prix à payer pour tenter de sauver Callisté. Les 108 jeunes vierges en toge blanche entrèrent sur 2 files dans le grand temple, en chantant une incantation à la gloire de Gaïa. La foule, apeurée par les grondements menaçants du volcan, s'était massée à l'extérieur. Tous les habitants qui avaient pu échapper à la nuée ardente s'étaient réfugiés à Akrotiri. Jamais Gaïa n'avait autant été en colère. Depuis plusieurs jours, des nuages sombres occultaient complètement le ciel. Des cendres tombaient en permanence, en une neige sinistre, sur tout le sud de l'île. Erebus, debout, derrière l'autel, regarda les jeunes filles se mettre en cercle tout autour de lui, le long des murs voûtés de l'immense coupole recouverte d'orichalque. Il était vêtu d'une grande robe noire, la tête nue, le crâne rasé, une barbe fine soulignant les traits durs de son visage émacié. Lorsque les adolescentes furent en place, 2 officiants poussèrent les lourdes portes du temple pour les refermer. Leur claquement sourd résonna pendant plusieurs secondes, faisant vaciller les flammes des torches tenues par les statues des dieux. En se courbant en deux, à un assistant au torse nu, musclé et luisant, tendit à Erebus un long couteau en obsidienne, pendant que deux autres apportaient près de l'autel un chaudron où bouillonnait de l'or fondu. Le rituel terrifiant, venu du fond des âges, allait pouvoir commencer. D'une voix grave, le mage se mit à psalmodier. « Ô vous, déesse stonienne, fille de Gaïa, la mère, pliez-vous à mon appel. Aujourd'hui, je suis le maître. » Les 108 adolescentes se balançaient lentement, comme les herbes d'un champ au rythme de l'incantation. Elles avaient croisé leurs bras sur leur poitrine, chaque main touchant l'épaule opposée. Leurs regards semblaient se perdre à l'infini, et leurs bouches entr'ouvertes formaient un vague sourire. Les fidèles auraient juré qu'elles étaient déjà en extase, au contact des dieux. En réalité, pour éviter tout risque de panique, elles avaient été droguées auparavant par les fumigations opiacées que leur avaient fait respirer les vieilles pitis. « Toi, la vengeresse avide, toi, la haineuse suprême, et toi, l'implacable ultime, que ma volonté vous guide. » Il claqua lentement trois fois dans les mains. Les jeunes filles s'avancèrent vers le centre en formant une grande spirale. La première arriva face à Erebus. Il la fit s'incliner au-dessus de la coupelle, creusée sur le plateau de l'autel, et d'un geste net de son couteau de pierre, lui trancha la carotide. Le sang gicla en saccade. « Ô déesse bienveillante, je vous offre là ces vierges, que leur sang qui vous enivre couvre le feu de la terre. » La victime s'effondra sur le sol sans un mot. Deux officiants la saisirent aussitôt et la transportèrent vers le fond de la salle, alors qu'elle agonisait, agitée de soubresauts incontrôlables. Pendant ce temps, l'homme au chaudron trempa une louche d'obsidienne dans l'or liquide et en versa le contenu dans la coupelle. Le métal et le sang se mêlèrent en grésillant. En quelques secondes, la mixture prit une teinte uniforme brunâtre. Elle fut ensuite récupérée de la louche, versée dans un moule à l'effigie d'Ophitéa, refroidie rapidement par trempage, dans un vase d'eau glacée et démoulée. La première médaille, encore fumante, fut déposée sur le côté de l'autel. Déjà, la deuxième adolescente s'approchait et offrait son cou à Erebus. « 108 fois, un sang pur est versé, pour 108 cercles d'or à vos pieds. Recevez ces vierges sacrifiées, je commande, et vous m'obéissez. » Le sinistre processus n'arriva à son terme qu'au bout de 2 heures. Au fond du temple gisaient désormais les cadavres des jeunes suppliciés. Une longue traînée de sang s'était formée sur le sol. Face à l'autel, indifférent à l'horreur qu'il venait d'engendrer, Erebus admira, en souriant, les 108 médailles d'Orichalc qui luisaient d'un rouge sombre. Il claqua à nouveau des mains pour faire ouvrir les portes. La lumière voilée de cendres de l'extérieur envahit graduellement le temple. La foule frémit de murmures craintifs. Erebus s'avança sur le parvis, tenant une médaille de chaque main. Il l'étendit vers les Atlantes. À ce moment précis, le soleil traversa l'épaisse couche de brume, illuminant le prêtre et faisant miroiter les pièces. Un immense cri de joie s'éleva de la foule. L'augure ne pouvait pas être plus clair. Tous applaudirent Erebus, même les parents des sacrifiés qui, quelques minutes plus tôt, était écrasé de chagrin. Cette manifestation de soulagement prématuré sembla ne pas être du goût des puissances infernales. L'éclaircie cessa aussi rapidement qu'elle était apparue. La terre trembla dans un grondement menaçant, pendant que le crépuscule grisâtre s'installait à nouveau. Erebus, furieux, fit volte-face, traversa à grandes enjambées le temple ensanglanté et passa la porte qui donnait sur l'atrium où se tenaient les 3 pitis. Les prêtresses, à la pour idée, ne se tournèrent même pas vers lui. Elles étaient en train de décider laquelle des jeunes sibylles porterait les médailles jusqu'au temple de Gaïa. La plupart d'entre elles avaient péri. Elles avaient été choisies une par une par Erebus pour faire partie des sacrifiés. Il ne restait plus que 3 survivantes. Très vite, la discussion des Pythies se concentra sur l'une d'entre elles, dont la beauté insolente leur était devenue insupportable. Bien entendu, elles ne parlèrent à Erebus que de la pureté de sa dévotion et de son sens du sacrifice. Elles choisirent Niomée.